Lux B, Papé Jali du Massilia Sound System.
Ayoli.
Ah, objet.
Manu, Sam de Gatchampeg.
Ayoli.
Jo Corbeau. Ouais. Est-ce que Marseille sur scène a été l'occasion de vous réunir, par exemple, tous les trois? Il y en a trois formations.
Tu as fait raison, parce que c'est incroyable. Il a fallu que ce soit un Parisien qui pense à réunir des Marseillais à Paris pour qu'on se retrouve un peu ensemble, avec des gens que justement qui travaillent à Marseille, et de se réunir à Paris, c'est vraiment incroyable.
Mais quand même, on est réunis à travers les ondes de Radio Invisible International depuis longtemps ensemble, quand même. On ne s'est jamais quitté, même quand on reste un an sans se voir.
C'est quoi les ondes de Radio Invisible International?
C'est un truc que Jo Corbeau a mis en place il y a déjà une bonne douzaine ou quinzaine d'années, ben là, un truc comme ça.
Tranquille,
hein, avec du dub, là, comme ce qu'on écoute.
C'est un concept avant tout. Radio Invisible International, elle est en train d'émettre en ce moment même sur 88.8. La grenouille accueille le Jack Evolk Observatoire provisoire mobile qui se déplace dans l'espace-temps et qui envoie les vibrations du dub puissant.
On est réunis par plein de choses. On est réunis par Marseille, déjà, parce qu'on est tous des musiciens marseillais. On est réunis par aussi une façon de proposer la fête aux gens, une façon de proposer un spectacle en général. C'est-à-dire que nous, comme on est des gens qui avons fait beaucoup de radio, on n'aime pas quand il y a trop de blancs, quand il y a des endormissements du public, tu vois. Donc il y a cette façon d'animer tout le temps, d'haranguer, de provoquer les réactions, de jouer avec le public. Et ça, c'est un peu l'école marseillaise. C'est vrai que Jo, avec mon collègue Moussuté, qui n'est pas là aujourd'hui, du Massilia, ont été quand même des précurseurs de cette façon de faire, de façon de choper le gaubi, comme on dit. Et je crois que Gatchampeg, ils en sont aussi un produit quelque part.
Gatchampeg.
Héritier de ça, quoi. Là aussi, on est réunis. Et puis, il y a ce fameux lignage qui fait qu'on est tous un petit peu guidés par l'envie de partir de notre identité pour créer, pour montrer ce qu'on fait.
Et puis aussi, quand même, guidé par Dja, parce que quand même, s'il n'y avait pas eu la grâce de notre Seigneur bien-aimé et la sérénité qu'il nous a donnée à travers toutes les périodes chaotiques de l'histoire musicale marseillaise.
Il nous a donné Malmousque, surtout.
Il nous a donné la Méditerranée, qui actuellement est d'ailleurs extrêmement menacée, comme d'ailleurs les habitants de ces rivages et les populations entières. Donc c'est aussi important pour quelqu'un qui commence à parler sur Radio Invisible International de parler de conscience. Ça, c'est très, très essentiel. Et qui dit conscience dit aussi réalité. Et en fait, qui dit réalité, c'est qu'effectivement, au départ, on peut remonter même bien avant la fondation du premier Massilia Sound System, c'est-à-dire déjà dans les années 70, et même remonter déjà jusque sur les barricades du monde ancien qui brûle. Donc à partir de là, il y a aussi des grands personnages qui ont été importants, qu'il faut citer, comme Jérôme Savary avec le premier Magic Circus, qui était une troupe ambulante et qui m'a donné envie de parler et de créer Albert et sa fanfare polyorcétique, donc de partir sur les routes et de parler aussi en direct avec les gens qui forment un cercle autour. Donc ça, c'est lorsque j'ai rencontré Tatou, évidemment, il y avait l'amour justement, par exemple, de Mickey Dread que vous entendez en ce moment, et il y avait le même amour de cette musique reggae qui nous émerveille. Et donc ensemble, c'était tout à fait normal de réunir tout ce qui aimait le reggae à Marseille et de créer donc le Sound System.
Les gars de Champagne, vous êtes un peu les derniers à intégrer cette famille là. On peut appeler ça une famille. Vous vous sentez bien dans la famille?
Quand on dit famille, c'est juste de cœur, parce que chacun, personne ne se doit rien, ni les uns aux autres. Hein. Ils sont autonomes et complètement indépendants. Hein. Si je voulais juste dire ça, je m'en suis permis.
C'est vrai que nous, on dit souvent qu'on a découvert un peu l'Occitan et sa modernité avec les Massilia Sound System, quoi. Et qu'après, ça a gambergé dans nos têtes. Et voilà, donc on a fait ça, quoi.
Alors, il a dit. Mais Manu.
C'est vrai, quoi.
Manu, c'est un peu le théologien de Gatchampeg, non?
Ça lui va bien.
Je sais pas s'il n'est pas antique.
Ça plaira à ma mère, ça.
Non, mais ce qui est important, c'est de dire aussi que Manu dirige deux chorales au local Tipeee, le lundi pour les filles et le mardi pour les garçons. Et il fait chanter les gens en marseillais, enfin en provençal marseillais, les chansons à fond. Tu peux le dire, nous ne sommes pas humbles.
Voilà, je le dis donc.
Au local de Tipeee, c'est ça?
Au local du Tipeee.
De la Tchourme aussi, pareil.
C'est, on peut dire l'adresse, c'est au 26 A rue de la Bibliothèque, c'est le local de la Tchourme aussi. Et donc, il y a tous les lundis soirs à 18h30 un atelier pour les filles, auxquelles bientôt vont se joindre des garçons.
Et elles sont bonnes, elles sont bonnes.
En plus, voilà, bon, fait, bon, je suis pas la pub, mais quand même, c'est un bon atelier. Et le mardi pour les garçons, voilà, et en Provence.
Il n'y aura pas de filles à l'atelier des garçons.
Et ouais, non, il y a des filles qui commencent à venir, des basses.
Ouais.
C'est,
pas grave,
c'est vrai, en plus, des filles qui se mettent dans les basses et tout. Donc voilà. Mais pour ce qui est de l'héritage, c'est sûr, il y a ça, il y a le fait que aussi, bon, ça a commencé à bouger dans notre tête avec le Massilial et le Fabulous aussi. Et puis aussi avec le fait qu'à Marseille, il y a ça qui est possible. C'est vraiment une possibilité qui est universelle pour Marseille.
Et puis quand on dit Marseille, il faut dire aussi la région marseillaise. Ouais. Parce qu'il ne faut pas non plus faire du centralisme.
Non, on n'oublie même pas. Port de Bouc à chaque fois.
Par exemple, Port de Bouc, Salon de Provence.
Marseille est une capitale et en tant que capitale qui devrait être bien pensée, elle a des devoirs plus que des droits envers tout ce qui est autour et tout ce qui apporte à Marseille volontairement. Il faut que Marseille rende.
Ouais, mais ça, disons, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'en fait, Marseille est représentée par un système qui rentre dans les lois républicaines. Donc, il y a une mairie et des gens qui travaillent, qui prennent des décisions.
Il y a un peuple aussi. Hein.
Oui, mais le peuple, voilà. Bon, lui, la seule décision qu'il peut prendre, c'est dans le bulletin de vote, quoi.
Ou en prenant son stylo, ou son micro, ou sa guitare aussi, tu vois. C'est ce qu'on a fait nous, par exemple. Je dirais des artistes, puisqu'on parle de Marseille sur scène. Là, on a l'air d'être à bâton rompu un peu. C'est vrai que Marseille sur scène, c'est à bâton rompu, le spectacle. C'est une revue, je crois. Et on attend avec impatience que Serge Giraud vienne, parce qu'il en parle mieux que tout le monde. C'est son idée. Mais on y a travaillé tous, puisque quand il a décidé de monter ce spectacle, il a eu l'intelligence de pas croire qu'il l'avait tout trouvé dans sa tête, et qu'en me disant dans des bouquins, en allant dans les bibliothèques, il allait savoir comment monter une revue marseillaise. Il a eu l'intelligence donc de venir parler avec Joe, de venir nous voir, avec Massilia, de voir tous les gens qu'il a compté, qui comptaient en brigader dans cette aventure, pour avoir aussi leur avis, leur retour. Et tout le monde lui a donné beaucoup de messages, et ça lui a permis de tisser cette espèce de truc qui est mouvant, parce que là encore une fois, le spectacle n'est pas tout à fait pareil, le même que celui qui a été créé à Paris. Il y a des artistes en plus, le site n'est pas le même, c'est en extérieur, il y a beaucoup plus de monde. Donc c'est un spectacle qui peut bouger, et ça convient parfaitement à la revue, où il s'agit de superposer X tableaux courts de genres différents. Et ce qu'il y a de bien dans celui-là, c'est qu'en plus, tout ce qui est à l'intérieur, même si c'est très différent, véhicule à peu près la même chose, c'est-à-dire on est de Marseille, on n'est pas orgueilleux de ça, on est simplement fier, c'est-à-dire on est digne, on se sent digne d'être de cette ville parce qu'elle nous apporte quelque chose, pas que des belles choses aussi, mais on les assume et on les combat celles qui sont pas bien. Et c'est ça le jeu de la création de l'artiste, de sa proposition. Et dans ce truc-là, on le sent bien. Alain Aubin qui chante avec une voix de haute contre des trucs d'opérette marseillaise d'avant-guerre, à Cheb Aïssa qui chante le rail, en passant par Joe, Gachampeg, Massilia, ainsi de suite, et Juan Carmona, on sent une unité quelque part. C'est pas
quartier nord.
Donc c'est une façon d'appréhender Marseille de façon un peu plus globale, quoi, pas à plat mais en 3D un peu, je dirais, moi, un peu comme si on observait la sphère d'en haut, quoi.
Les quartiers nord, c'est important parce que quand même. En fait, bien avant que ce spectacle soit créé, il y a déjà 2-3 ans, pour le lancement de leur album Basilic Instinct, ils avaient organisé un spectacle où nous avions participé, où il y avait aussi des tas de genres qui se suivaient, des tas de sketchs. C'était à l'Odéon, mais c'était réussi quand même.
C'est-à-dire qu'un artiste qui fait un truc, il a toujours tendance à penser que ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. S'il n'est pas comme ça, je vois pas qu'est-ce qu'il a. Tu vois, non, ça me semble normal. C'est un jeu, c'est pas, il faut pas être dupe. Il se trouve qu'à Marseille, les artistes ne sont pas du tout dupes. Ils ont leur truc, ils aiment faire leurs choses, ils s'intéressent particulièrement à leur genre, mais ils ont une capacité d'écoute sur ce que font les autres. Et on juge l'effet produit par ce que fait l'autre sur le public comme étant la première des choses importantes. Avant son propre goût, avant tout ça. On est là pour divertir les gens. Chaque fois qu'il y en a un qui arrive, il n'y a qu'à applaudir. Voilà. C'est ça un petit peu la mentalité qui ne s'est pas installée toute seule. Attention, hein, quand Joe parle d'il y a 15 ans, Marseille, est-ce que c'était il y a 15 ans? C'était autre qu'une friche. C'était, il n'y avait plus rien. Moi, j'étais prêt à partir à Paris à cette époque-là, tellement je m'emmerdais.
Ouais, moi, je suis revenu quoi, à peu près à cette époque.
Donc ça tombait bien. C'est peut-être lui qui nous a empêché de partir.
Non, mais je suis revenu parce que nous, c'est vrai qu'il y a une certaine époque, tous les musiciens, bon, professionnels ou en tout cas qui voulaient faire de la musique. D'une manière réelle et efficace, et monter à Paris. D'ailleurs, bon, moi, toute la période où j'étais à Paris dans les années 70, j'arrêtais pas de rencontrer des musiciens du sud, en tout cas, de Marseillais, de la région. Et puis bon, après, il y a eu réellement un moment où c'est vraiment le message, quoi, Rasta, qui m'a ramené à Marseille. C'est-à-dire, c'est la compréhension du message de Bob Marley. Et que la volonté donc de Jah, c'était qu'il fallait maintenant descendre à Marseille parce que c'était là qu'allaient se passer les choses.
Quand vous dites ça, ce qui se passait il y a 15 ans, donc peut-être l'envie d'aller à Paris ou d'être passé par Paris, en tout cas chez les gars de Champeg et chez les nouveaux venus de la scène marseillaise, il n'y a a priori pas du tout l'envie de monter sur Paris. On se dit on est sur Marseille maintenant, ça c'est acquis. Est-ce que le fait qu'on peut fonctionner sur Marseille sans avoir besoin de...
C'est grâce à ce qui s'est fait 15 ans avant. Quoi. C'est...
Enfin, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus.
Tu es toujours obligé de monter à Paris pour tes affaires parce que les maisons de disques sont toujours là-haut, les distributeurs sont toujours là-haut. Quand tu fais du disque...
Tout est là-haut.
On n'a pas eu besoin d'aller à Paris pour faire un disque.
Non, tu peux réaliser ici. Tu peux réaliser des choses. Tu peux faire les albums ici. Il y a des studios, il y a des éditions, etc. Mais tu... Réellement, si tu veux rentrer dans un circuit où on t'entend et où, je veux dire, c'est pas Massiliane, il y a Ayam qui va dire clair. Le contraire. Bon, donc, où les tourneurs sont à Paris, où les maisons de distribution sont à Paris, où tous les attachés de presse, les médias sont à Paris, on est obligé de travailler par Paris.
D'ailleurs, il y a
un
grand exemple. Attends, il y a quand même un grand exemple.
On parle pour les musiciens, pour le théâtre, pour d'autres activités.
Moi, je parle bien sûr pour les musiciens. Pour
non, mais justement, c'est-à-dire que. Voilà, quand. Massilia et Ayam ont été connus grâce à des gens de Paris, de la presse parisienne, Libération ou Le Monde. On dit tiens, il y a des gens qui sont à fond, Marseille, qui font des trucs, qui sont à fond. Massilia et Ayam, d'un coup, Marseille a dit c'est incroyable, il y a des trucs chez nous, quoi. Et Massilia et Ayam, gens qui boulèguent un peu, on ne sait pas. Donc c'est bon, Paris en a parlé en bien, donc on peut dire c'est bien. Alors ce qui manque, c'est la critique marseillaise. Pourquoi les Marseillais ne peuvent pas, la presse marseillaise ne peut pas avoir son idée sur le monde et en critiquant tout, et pourquoi ça ne serait pas un message local international.
La presse marseillaise a très bien fait son travail pendant des années, ils nous ont tous soutenus, ils ont été toujours présents,
oui, mais pourquoi
ils ont fait parfaitement leur message, mais je veux dire, c'est un leurre de penser qu'on peut réaliser les choses en partant de Marseille comme en partant de Barcelone. C'est impossible, il ne faut pas rêver quand même.
Hélas
non, il est vrai, je suis d'accord avec vous tous, moi, parce que en fait, il est vrai qu'aujourd'hui, il faut situer le débat sur deux niveaux. Il est vrai qu'aujourd'hui, un groupe marseillais qui a une bonne proposition à faire trouve du public, peut travailler. C'est-à-dire, il peut exister, ce qui était beaucoup plus difficile il y a 15 ans où les gens n'avaient pas du tout l'envie de sortir, où les cafés musique n'existaient pas. La maison hantée s'est créée en 85, un truc comme ça, il n'y en avait pas avant, c'était un précédent. Donc depuis, quand les gens ont vu qu'un endroit fonctionnait, d'autres gens ont ouvert d'autres endroits, ainsi de suite. Certains d'entre nous ont pu se professionnaliser, donner un truc de plus de qualité, donc le public adhérait plus fortement. D'accord.
C'est pas les cafés-bars, ni les pianos-bars qui professionnalisent les gens, puisqu'on sait très bien que ce sont des lieux qui sont là pour vendre de la bière, et dans lequel certains respectent les musiciens, mais la plupart, quand même, ne respectent pas les minimums, le minimum syndical que l'on paye à un musicien, etc. Donc je veux dire, les gens qui rentrent dans
ce... Marseille, c'est plus
important. Et en plus, les gens qui rentrent dans ce circuit, les musiciens, ils se grillent. Parce que pour vivre, ils en font plein. Oui. Et puis, au bout d'un moment, c'est très dur pour eux. Parce qu'artistiquement, ils ne peuvent pas du tout s'exprimer.
C'est vrai. Mais enfin, je vous dis, il y a une plus grande écoute à la culture à Marseille de la part de la population, du public, qu'il y a longtemps. Donc c'est plus facile de devenir un artiste. Non, ensuite, pour se professionaliser, c'est certain, c'est vrai, il faut toujours aller à Paris. Nous-mêmes, Massilia, quand on a monté Rocker Promotion, on a été obligé d'aller chercher un distributeur parisien, même s'il était petit, parce qu'il n'y en avait pas ici à la hauteur. Il se trouve que ça change, doucement.
Il faut espérer, bien sûr.
C'est-à-dire que des gens ici commencent à se prendre au sérieux au niveau de la production et de la distribution. Ça se groupe, ça travaille, ça réfléchit, et un jour ou l'autre, effectivement, l'industrie du disque de la région, de notre région, existera vraiment. Bon, mais il n'empêche que pour le moment, les blocages se font toujours au niveau de Paris, ce qui concerne la distribution et notamment la diffusion sur les ondes nationales, c'est clair. Mais je pense qu'on a quand même rentré un petit peu le coin dans la faille, quoi. Il faut pousser,
Non, mais ça, c'est sûr.
Et c'est bien que justement sur un spectacle comme Marseille sur scène, des gens se réunissent pour crier haut et fort, on est autonome en création, mais et maintenant on veut accéder à la plus grande écoute.
C'est
la plus
un Parisien qui l'a organisé, donc c'est une structure, c'est la cité de la musique, c'est le grand hall de la Villette, donc ce sont des structures parisiennes qui ont organisé
ça. Quoi, voilà. Il faut que ce soit un Parisien.
Et d'ailleurs, je les remercie. Non, mais je veux dire, je les remercie.
Bien sûr,
quoi.
Bien sûr. Et pourquoi nous, donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir des subventions, des frames, enfin tout ça, quoi.
Non, mais ça y est maintenant, bon, puisque le Festival de Marseille a relayé en organisant le concert du 11.
Laissez Mathéo revenir au sujet,
on
les gars.
On va donner la parole à Sam.
Oh, Sam.
Parce qu'il y a peut-être un avis différent.
Moi, je crois qu'on peut être musicien, tourner régulièrement, être intermittent du spectacle sans avoir affaire à Paris. Quoi. Pense à
toutes les régions de France.
À Jean-Marie Carlotti, qui est pour moi plus dans la logique. Enfin, moi, personnellement, je cherche pas la grande célébrité ou un aura, tu vois. Moi, je dis, si on arrive à vivre de ce qu'on fait tranquillement, j'ai pas envie de.
Non, mais moi, je te parle pas d'aller à Paris pour vivre la vie des stars. Je parle de survivre, moi.
Quand on y va, Paris, on est malade.
Le métier, on le connaît. On sait très bien que le métier, ici, les gens, ils survivent. Oui. Les techniciens, les artistes, ils survivent. Il y a ceux qui réussissent à s'enquiller dans des structures qui sont subventionnées, qui ont des moyens, qui ont des pouvoirs et qui absorbent d'ailleurs toute une partie de cette énergie de la ville. Et ceux qui n'en sont pas. Et il y a aussi le système de clan quand même à Marseille, il ne faut pas rêver. Moi, pour moi, Marseille, c'est pas un paradis, hein, je vous le dis franchement.
C'est
hein.
Pas plus facile
ça peut être un paradis parce que je connais les lieux où ça l'est réellement dans l'esprit, mais au niveau de la ville, au niveau du monde matériel, c'est un enfer, Marseille.
C'est vrai qu'on manque un petit peu de pas mal de choses. Alors on essaye en ce moment, tout le monde essaye de vouloir valoriser la ville, de vouloir faire des choses. La Coupe du Monde en est une occasion, le Festival de Marseille s'y est associé. Pour essayer de faire bouger un peu les choses, mais c'est les gens qui s'intéressent à la culture contre les gens qui s'intéressent qu'au fric. Hein, ça, il faut le savoir. Et ça sera toujours ce combat-là. Et à Marseille, c'est vrai que, bon, on a tendance à se passionner un peu plus, hein, comme on fait autour de cette table aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que cette région vue, d'ailleurs, est très dynamique. C'est vrai, parce que quand tu vas à Nantes, quand tu vas dans le Jura, par exemple, de loin, Marseille brille presque autant que Paris aujourd'hui pour les gens. C'est un mythe, oui. Parce que ça intéresse aussi des investisseurs de faire que Marseille brille un peu plus pour qu'on spécule sur le mètre carré d'immobilier.
Déjà, ils ont une conception. Marseille, ça devient une ville virtuelle. Tu as des supporters de l'OM de partout qui viennent de plus en plus être Marseillais pendant 24 heures. Mais en fait, la ville elle-même, si tu analyses qu'est-ce qui se passe dedans, c'est la misère, quoi.
C'est la misère, je suis d'accord, mais il y a quand même au niveau des groupes, quoi. Moi, je me souviens, il y a 15 ans, quand je voulais sortir, où je voulais aller voir un concert, où je voulais écouter la musique. Aujourd'hui, il n'y a qu'à prendre le journal et regarder toutes les sorties qui sont proposées. Il y a quand même un moulon de groupes qui sont créés. On ne les voyait pas. Il y a 15 ans, il n'y en avait pas autant.
T'as mieux, hein,
surtout nous. Et ça veut dire que le chemin, il est pris, quoi. Ça veut dire, moi je crois, hein, ça veut dire qu'il y a quand même des...
l'autonomie de la vie culturelle qui se met en place, voilà. Petit à petit. C'est pour ça qu'il faut continuer à forcer. C'est bien qu'on nous ouvre les micros de cette émission pour pouvoir le dire, d'ailleurs.
Non, mais il y a de plus en plus de groupes. Bon, mais maintenant, il faut aussi que les digues, elles larguent, quoi. Parce que si c'est simplement l'arbre qui cache la forêt, c'est pas intéressant.
Mais je vois arriver Serge Roux, justement, avec une pioche pour casser la digue.
Le temps que Serge Roux s'installe au micro, on va écouter l'un des artistes qui participe à Marseille sur scène, Lux B.
D'accord, juste une dernière phrase. Ouais. Un lyrics, une phrase de Papé dans une des chansons de Massilia. C'est-à-dire, nous, on n'est pas jaloux, mais on veut la même chose chez nous. C'est tout.
On écoute Cheb Aïssa.
I'm
C'était Cheb Aïssa qui participe à Marseille sur scène. Bonjour Serge Hureau. Nos invités tout à l'heure disaient qu'il avait fallu que ça soit un Parisien qui réunisse tous les Marseillais.
Ouais, mais je suis un Parisien un peu spécial. Moi, je suis né en Algérie. Alors, la première ville que j'ai vue de France, c'est Marseille. Je descendais d'un avion, genre en 54, avant la guerre, non, d'un avion parce que mon père était dans l'armée.
Une aile devant, une aile derrière.
Non, c'était un avion de payé par l'État. Et on est arrivé d'Alger à Marseille, et je me rappelle, j'étais tout petit, j'ai vu un soleil énorme que j'ai trouvé être pareil à celui d'Alger. Il y avait vraiment une espèce de deux villes jumelles. Puis voilà, et puis j'y venais quelquefois voir ma famille, mais j'ai une famille qui est noire installée à Marseille qui a viré un peu dur, et je ne les vois plus.
C'est-à-dire dur.
Parce qu'on peut être pied noir et assez dur, parce qu'on est quelquefois dans la nostalgie de quelque chose qui était quand même une chose assez dure. Le colonialisme, c'est pas très tendre. Et alors du coup, moi après, j'allais pas tellement à Marseille, parce que bon, quand j'étais petit, quoi, c'était ma famille, mais on la fréquentait pas beaucoup, parce que j'avais des parents un peu différents, qui avaient des idées un peu plus ouvertes. Et en fait, c'est vrai qu'à Paris, dans ma banlieue, à Issy-les-Moulineaux, j'ai fréquenté surtout des Arméniens, parce que c'était une ville, Issy-les-Moulineaux, c'est encore une ville où il y a beaucoup d'Arméniens. Voilà, je suis allé dans cette école-là, et Marseille est restée dans mon esprit, et au moment où je crée le Centre National des Variétés, eh ben, la première chose qui m'intéresse, c'est de parler du Sud et de Marseille. Pas pour parler de moi, mais parce que je trouve que le Sud, c'est un lieu, un terrain d'inspiration vraiment très très grande. Et qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a une inspiration pareille depuis si longtemps à Marseille et dans cette région depuis plus d'un siècle ? Même bien plus, parce que si on regarde pas simplement l'histoire du music hall, il y a aussi une histoire d'une période où faire de la musique, c'était pas simplement monter sur une scène. C'était chanter dans des fêtes, c'était chanter dans son travail, etc. Alors tout ça, moi, m'intéresse beaucoup, à titre, on pourrait dire, professionnel, mais pas seulement. J'ai des raisons assez personnelles de faire ça, voilà. Je trouve que c'est ça qui rend possible des projets, si on a aussi des raisons personnelles de le faire. On a le droit de le dire.
Comment avez-vous réussi à monter ce projet et à réunir cet éclectisme marseillais?
Je savais rien, moi, en fait. J'avais un copain là, qui habitait Marseille depuis 10 ans, Olivier Renouf, un danseur. Il y a beaucoup de gens qui sont venus s'installer à Marseille depuis des années. C'est une ville qui me paraît extrêmement prête à recevoir des gens qui veulent s'y installer. Et c'est Olivier qui m'a vraiment parlé des gens que je connaissais à peine, j'avais plus ou moins entendu parler, mais comme un mec qui lit le journal, quoi, et qui lit les magazines de musique. Et puis sorti de là, je connaissais pas vraiment. Et c'est en posant cette question incessante, d'abord Olivier, ensuite à Djali, que j'ai rencontré, qui était, si on fait quelque chose qui veut être un plateau, qui est une vraie réunion de famille, qui est-ce qu'il faut pas oublier? Et alors Djali a commencé à me dire, est-ce que t'as pensé à un tel? J'ai fait, ouais, est-ce que t'as pensé à l'autre? J'ai dit, ah ben non, je connais pas. Et au lieu de frimer et dire, je connais, j'ai dit, je connais pas. Et au fur et à mesure, on est arrivé à réunir des gens. Dans notre première version, il y avait aussi des questions d'argent qui disaient qu'à un moment, tu es obligé d'arrêter de faire ta table et avoir tes invités. Et cette fois-ci, je suis très content parce qu'on a, aussi, on a des nouveaux qui reviennent, mais qui sont ici, pas des nouveaux, qui sont vraiment même les anciens d'un certain point de vue. Il y a Quartier Nord qui va venir. En plus de Cheb Mami qu'on vient d'entendre, il y a Lily Boniche.
Cheb Aïssa,
excuse-moi, je dis Mami parce que c'est son cousin. Et que l'un et l'autre sont des gens qui me plaisent beaucoup. Et que maintenant, je crois que Cheb Aïssa, il joue avec Cheb Mami en première partie. Et c'est important aussi de passer en première partie de quelqu'un. Et l'esprit de notre soirée, c'est un peu ça. C'est une soirée où il y a plein de morceaux. Les gens, ils jouent tous un quart d'heure. C'est-à-dire que chaque artiste accepte de jouer un quart d'heure, 20 minutes, et d'être un morceau dans un ensemble qui veut être une photographie musicale d'une ville, à travers l'histoire des artistes, mais aussi un reflet des gens de cette ville. Ça veut dire qu'il y ait des Arabes, qu'il y ait un petit peu d'Arménie dans l'air, qu'il y ait une femme corse aussi, c'est nouveau. Il y a Jackie Michaeli qui va venir nous rejoindre. dans cette fois-ci. Là, je crois que c'est important aussi de ressembler à soi-même, mais de ressembler aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Quoi. Moi, c'est ce qui me plaît.
Chacun de vous, qu'est-ce que vous en avez conservé comme expérience, l'expérience parisienne de Marseille sur scène, la première version ?
On a bien rigolé.
Ouais.
C'est sûr que c'est le spectacle, le premier soir, c'est toujours difficile. La générale, c'est toujours le truc où tu as le stress. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça n'a pas marché ? Le deuxième, bon, on est à moitié rassuré. Puis le troisième, on commence à maîtriser. Puis on se dit, si on partait un mois, là, tous les soirs, ça serait rigolo. Ah, ça faisait une tournée européenne, ça serait marrant. Ouais. Voilà, c'est le plaisir là, de se retrouver à une cinquantaine, tu parles jamais aux mêmes gens plus d'une demi-heure, ça se renouvelle tout le temps les rapports, il y a tout le temps un truc qui se passe, bon, voilà, c'est marrant.
Il y a eu, un très grand moment à la fin du troisième jour. D'abord il y a eu un rappel sur un dub du Massilia, tout le monde est venu là-dessus chanter, se présenter son collègue, et puis alors c'était vraiment la folie quoi, carrément les gens étaient debout et tout, et ils continuaient à applaudir, et nous on était derrière dans les coulisses, et on s'est mis tous en cercle, et on s'est mis à chanter avec les Gatchampeng qui sont partis, je crois bien, sur l'hymne de Marie-Madeleine. Et c'était vraiment très puissant, quoi. Ouais. Et il y avait carrément le rail qui chantait dessus.
Alain Aubin qui avait un boucané de partout avec l'aïeul, il avait préparé le toast avec l'aïeul et qu'il avait une surprise qu'il avait fait à tout le monde d'ailleurs. Et il paraît que l'odeur est restée imprégnée.
Et qu'il paraît que Pierre Boulez, qui est le grand tenant de la Cité de la Musique, est un endroit d'une arrogance que vous n'imaginez pas, qui touche des sommes de la République à tomber par terre, et qui fait deux fois par an, même s'ils ont aidé ce projet, je le dis franchement, parce que moi, les gens que j'aime, je crois qu'il faut leur dire la vérité. Je peux aimer ces gens parce qu'ils nous ont passé, je sais pas, 400 000 balles pour faire cette soirée, mais j'ose leur dire pourquoi tu en fais que deux dans l'année. La musique populaire, ça représente beaucoup plus que la musique des bourgeois et de l'aristocratie. Et pourquoi dans des lieux de la République, on fait d'abord de la musique de l'élite et de l'aristocratie ? Je pensais à mes voisins, à la Villette, mais on a des bons rapports de voisinage, parce que je trouve qu'avoir des bons rapports, ça veut dire être sincère, quoi. Et si vous voulez, c'est vrai que dans ce lieu, ensuite, la Yoli, Pierre Boulez, a dit pendant un mois, mais ça sent une drôle d'odeur dans les loges de l'endroit. On lui a dit, ben, ça sent la vie, ça sent le peuple, ça sent que la musique, ça s'écoute pas qu'avec les oreilles, mais ça se mange aussi, la musique.
Il y a rien qui est passé, il a dit la fango, là.
Mais c'est un mec bien en même temps, c'est un mec assez intéressant. Si tu parles vraiment avec lui en tant qu'artiste, mais si tu parles avec lui en tant qu'institutionnel qui reçoit plein de thunes, il n'est pas du tout intéressant. Moi, je m'endors, je m'emmerde avec lui.
Ce qui était merveilleux, c'est justement Alain Aubin qui là, j'ai découvert quelqu'un que je ne connais pas du tout, puisqu'il chante à l'opéra. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le monde de la musique classique, etc. J'ai trouvé quelqu'un de mes marins.
C'est la première fois,
possible,
mais tu sais que, ben oui, Alain, c'est la première fois qu'il chantait des chansons en public. C'est un mec, je l'ai rencontré ici. Moi, ce qui m'intéressait avec Tino Rossi, Reda Kerr, qui est vraiment le premier oriental à être connu en France, qui était installé à Marseille pendant des années. C'est lui qui a formé Yves Montand, là, dans les années. Il est mort dans les années 50. Et quand je lui ai fait entendre ça, le mec, il m'a dit, mais c'est des voix de Tenorino. Alors je dis, comment ça? Mais non, je dis, c'est pas des chanteurs d'opéra. Je te dis, c'est des chanteurs de l'Alcazar. Et il dit, non, mais ça, c'est des voix de Tenorino. Et moi, avec ma voix de tête, de chanteur baroque, je peux faire ça. Je dis, bon, bah d'accord, fais-le. Deux semaines après, il m'appelle, il dit, j'ai tous les CD et toutes les cassettes qui peuvent exister des rééditions de Reda Kerr. Il connaissait tout par cœur. Et ce mec, il arrive dans un bateau tiré par les techniciens habillés en espèce de marin pour rappeler que les bateaux, tu veux, tu sais qu'au Music Hall, tu avais énormément les mecs qui s'occupaient de tous les décors parce qu'il fallait monter très très haut. C'était des marins. Il y a les mêmes superstitions sur la scène que sur les bateaux. Il y a des mots qu'on prononce pas, des couleurs qu'on porte pas, tout ça. Et il y a un tas de coïncidences comme ça. Et alors, tu vois Alain Aubin avec Sophie Boulin, que j'ai surnommé Bouboule, qui est aussi une chanteuse baroque, qui est dans son bateau tiré par des mecs en marin. Tu vois le bateau à roulettes. Et il te chante un pot-pourri de mémoire de l'Alcazar, quoi. Mais avec des voix, un peu les voix du lyrique. Alors ça fait un petit décalage bizarre. Et ce type, il est d'une générosité incroyable. Avec son pote, ils sont arrivés là pendant que les autres passaient. Ils étaient encore dans leur bateau, une heure et demie après leur passage. Et ils faisaient la Yoli.
Monter la Yoli. Hein.
Incroyable. Hein.
La veille, il vient me voir, il me dit un jour, sur ta première... parce que la première chanson que je chante dans le spectacle, c'est celle qui sort dans le prochain disque, la semaine prochaine. Donc, à partir du... Yéba Ayoli. Et alors, il me dit, tu veux pas que pour illustrer ta chanson, on fasse un Ayoli ? Alors il est venu avec le gourou de l'Estac, ils ont trouvé un mortier, un pilon, là, ils ont tout amené et ils ont monté la Yoli.
Moi, juste un truc, la Villette, franchement, j'étais à fond, moi, j'étais à Paris, j'étais à fond, il n'y a pas de problème, mais seulement on dit qu'il y a peine de sécurité, même à la Villette, tout ça, et je vous rappelle qu'on nous a volé un plateau de pastaga. conservé pour les gens. Et carrément, c'était subtilisé alors qu'il y avait des condés partout dans ce truc.
Et ça a été.
Je sais pas qui c'est.
Pierre Boulez.
Il faut dire que Massilia, sur le contrat, stipule qu'ils boivent du pastis.
On sert la pastaga aux gens, au public.
Ah, c'est vrai que ça a été fou. Alors, il y a eu un vent de panique le premier soir. La directrice de la Cité de la Musique m'a fait appeler sur mon portable. Moi, j'avais mon maillot de marin pour faire les annonces. Puisqu'en fait, le plan de la soirée, c'était piqué au titre, c'est vrai, de Massilia à Hollywood. Je me disais, on va faire une soirée à Hollywood. Comme ça, on montre tout. C'est, tu montres la technique qui filme, tu montres les gens qui mettent les fils et tout. C'est le seul moyen. Dans une soirée, il y a beaucoup de gens différents. Et tout d'un coup, je m'entends appeler par la directrice de la Cité qui me dit, on ne peut pas servir sans pastis. Alors je lui dis, comment tu peux pas servir sans pastis? Ça se marche comme ça. Il n'y a pas. Je lui dis non. Alors elle dit, je veux bien 30 pastis. Tu vois, alors j'ai commencé à négocier, à dire, mais pourquoi 30 et pas 500? Et le lendemain, elle a abdiqué, elle a dit, il y aura tous les pastis qu'il faut.
J'ai le fait mot de l'histoire, en fait, les plateaux étaient à côté de la scène et on les a vus avec une copine et on a bu pas mal de pastis.
C'est toi chose. Le...
Si c'est de ça que vous parlez, c'est ça nous qui avons bu. Parce qu'après, il y a un mec qui va nous dire que c'était interdit, en fait.
Ça va se régler sur le vieux port. Ça va se régler sur le vieux port.
Je crois bien que c'est ça. Hein.
Appelez-moi Eva Jolie, là.
On va écouter après Cheba Issa, Joe Corbeau qui vient d'en parler. Ouais. Donc c'est le nouveau.
Eh ben oui, non mais c'est ça qui était bien parce qu'en fait en décembre donc grande surprise, je suis invité sur ce plateau par Serge Huraud et puis donc je chante la nouvelle chanson que je suis en train de travailler, Yeba Ayoli. Et puis aussitôt lancée, on l'enregistre et elle sort.
J'ajoute le la et précipite le yeba. Avez-vous bien compris ces vers cabalistiques? Car ils contiennent le secret d'une formule alchimique. Le grand yeba, c'est quoi? Une potion magique, un élixir unique aux vertus salvifiques. Sauce à l'ail du sud-est qui invite au transport. Elle provoque la trace de Pigalle au vieux port. Maître de cérémonie armé d'un lourd pilon. Prêtre de l'harmonie, je déchaîne le son. Recette que César explique à son garçon. J'en fais un aïoli qui fait la vibration. Attention, c'est plus fort que le picot citron. Pour tout dire en deux mots, c'est meilleur et plus bon. Versé dans un mortier, en vraie voix d'olivier. Un très grand tiers de rock, un grand tiers de reggae. Un grand tiers d'amour et un grand tiers de joie. Quand on vient quatre tiers, les pilonnes avec foi. Elles sont vérité et de mémoire de griot. Naquiché les DJ, un bonsoir ce trio. Dans le Massilia Sound, lancé par le corbeau. Renvoyé par les cours, répandu aussitôt. Aujourd'hui, il est temps de lever le secret. Dans le style prolifique d'une charge inspirée. Dans le style ostentatoire, des joutes de comptoir. Dans le style déclamatoire, des troubadours du soir. De la sauce qui ose mélanger toutes choses. Fait tourner la rythmique du pilon galactique. Tourne l'inga magique, oh là là, quel trick. Autrefois c'était fou, on dansait le mia. Maintenant c'est fini, on danse le yeba. Un rap humoristique pour les zygomatiques. L'hymne cosmopolite des universalistes. C'est le chant planétaire d'un amour non sectaire. Qui unit tous les cœurs de la planète Terre. Fait tourner le pilon. Yeba, tu réponds Ayoli, car on te dit Ayoli. quand on pisse. Un tir de bouillabaisse, la bouillie de poisson, que l'on mixe par tradition entre Marseille et Toulon. Et un bon tir de pizza et de mozzarella, un bon tir de biscuit, c'est un fameux atout. Et avant le dessert, encore 10 tirs d'amour, celui premièrement de papa et maman. L'amour du grand esprit, celui de Jésus-Christ, bien sûr celui de Jah ainsi que Jéhovah. Et l'amour de Rama, et l'amour de Krishna, le grand amour d'Allah et l'amour de Bouddha. Et une pêche belva, et une pêche belva, et une pêche belva, et c'est le grand Yéba.
Vous avez une réaction hors antenne là ?
Eh ben Yéba, Ayoli. J'espère. Attends, c'est pour tous les gens qui nous écoutent là, qui vont être au vieux port. Faut pas oublier, quand on entend Yéba, on répond Ayoli.
Et quand on te dit Ayoli, là tu reprends
Yéba.
Je le savais maintenant. C'est le tube de l'été.
Pour le sur la conception de Marseille sur scène, est-ce que les Marseillais ont travaillé chacun de leur côté avec toi Serge, ou est-ce qu'ils ont travaillé en commun? Est-ce qu'ils ont ensuite découvert le travail des autres quand il s'est produit sur scène?
Non, il y a des gens qui chantent ensemble. Par exemple, il y a Jean-Marie Carlottier, Gatchenpec qui vont chanter ensemble. Et puis il y a une chose qui est importante, c'est tout le liant, justement la sauce pour faire monter tout, et qui est que toutes les présentations, elles sont chantées. Elles sont chantées par Djali sur des dubs et des paroles qu'il a mises là, qui décrivent les gens un petit peu, qui les présentent. C'est une espèce de carte de visite à chaque fois de chaque personne qui rentre sur la scène. Il faudrait que ça se faisait au temps des troubadours. Moi, je l'ai appris en passant. Je sais plus qui me l'a dit.
C'est la tradition du griot africain aussi.
Aussi, oui.
Faire le panégyrique de celui qui arrive, c'est comme ça. On retrouve ça même en Colombie. Les accordéonistes qui vont de village en village sur les hauts plateaux, qui bien qu'ils s'affrontent et se défient de week-end en week-end, en sachant que l'autre est venu la semaine d'avant, elle a parlé sur lui, alors il est obligé de composer dans la journée une chanson pour se rattraper, mais quand même, il fait quand même un peu la louange toujours de l'autre. Bon, c'est un truc.
Il y a des choses qui ont été faites exprès pour le spectacle. Par exemple, Joe Corbeau, lui, il rencontre le cinéma d'une manière que je ne vous dirai pas, qu'il faut voir, il faut garder des surprises. Il rencontre le cinéma, il fait quelque chose avec le cinéma et la poésie, une poésie très ancienne, du siècle dernier carrément. Et alors, il y a des rencontres, c'est des choses qui ont été vraiment conçues pour le spectacle lui-même. Puis il y a aussi un travail musical qui a été fait aussi par Massilia, sur lequel dansent des danseurs qui sont à la fois des gens hip-hop et claquettes, des gens qui font des claquettes à la Fred Astaire et qui roulent sur leur tête en même temps. Et c'est vrai que c'est un peu, ça représente bien cette soirée, quoi, qui est une soirée où on mélange les genres et on se rappelle que, en fin de compte, on n'est pas si différents, même si nos musiques, nos paroles sont différentes des gens, je sais pas, qui étaient à l'Alcazar ou à l'Olympia.
Non, mais moi, je crois que le music hall, c'est
des gens
ça.
De la baraque.
De toute façon, le music hall, c'était des tas de numéros qui se succédaient.
C'était la revue.
Il y avait la chanteur dramatique. Après, tu avais le comique. Après, tu avais le contorsionniste,
t'avais
le fakir.
Ouais, tu avais l'épileptique, qu'on appelait. C'était des filles très excitées.
Et le pétoman aussi.
Tu avais le pétoman. Incroyable. C'est un Marseillais, d'ailleurs. C'est un Marseillais, le pétoman de Moulin Rouge. Il était hyper célèbre. C'était un type incroyable.
C'était la belle de l'eau.
Au Moulin Rouge, tout le monde devenait fou de ce type. Et il y a ce côté aussi un peu obscène, provoquant, qui a toujours été dans le music hall. Le music hall, c'est pas simplement Juliette Gréco en robe noire dans une cave de Saint-Germain-des-Prés. Hein. C'est aussi le côté provocant, parler de la sexualité, parler des salauds et oser dire les choses comme elles sont. Par exemple, quand Jean-Marie Carlotti chante les chansons de Victor Gélu, c'est extrêmement violent, les chansons de Victor Gélu. Ça dénonce des gens, etc. Tout ce qui est la musique, les variétés, la chanson, c'est pas qu'un monde niais, innocent et sympa. Il y a de la joie, boum, quand notre cœur fait boum. Hein.
C'est plus fort que le grand poète ouvrier du 19e siècle, exactement, marseillais, qui chantait pas lui-même. Et quand il était un peu saoul dans les banquets, il lui arrivait de monter sur la table, mais il fallait le prier pendant 3 heures. Par contre, il a laissé des textes, plusieurs dizaines, voire centaines, qui sont d'une beauté exceptionnelle et qui...
qui pourrait donner des leçons à pas mal de pseudo-rebelles d'aujourd'hui, quoi.
Et puis en plus, il y a sa statue au Vieux-Port.
Exactement, jouer. Ça va être bien quand Jean-Marie Carlotti va bien chanter pitchoune, ça. Peu cher. J'espère que la caméra de Philippe Carrez va venir sur cette plaque, parce que les gens, en fin de compte, ne savent pas vraiment. Il y a les bagnoles qui passent à côté de ça. Et si cette plaque, elle chantait de temps en temps, ils se rendraient compte de ce que c'était que ce bonhomme.
On pourrait mettre un sound system avec des textes de Victor Gélu.
Ouais, ça serait beau.
Le premier écrivain qui a aussi décrit Paris, vu de l'extérieur, vu par une vitrolée.
Exactement.
D'un Nouvelle-Granée, donc si voilà, vitrolé.
C'était
vitrolé, Nouvelle-Granée. Il monte à la capitale, il décrit Paris, il décrit tout ce qu'il voit à Paris. Et c'est une vision qui n'est pas justement un livre, regardez les provinciaux comme ils voient Paris ou je ne sais pas quoi. C'est
la,
une critique sociale et culturelle très intéressante.
Donc, surtout qu'à Paris, il y a beaucoup de rebelles.
Et qu'on retrouve parfois chez Scotto, même si Scotto a fait beaucoup de concessions au show business parisien et qu'il a fait beaucoup pour plaire à Paris.
C'est-à-dire
que bon, et pour gagner de l'argent. Quoique, en écoutant les chansons qu'il a fait sur Paris, il doit être à peu près sincère parce que Paris, à son époque, était très agréable, très agréable.
C'était le Paris des Noirs, les Noirs américains qui arrivaient, c'est le Paris de la naissance du jazz.
Mais quand il oppose Marseille à Paris dans ses chansons, il touche toujours les trucs assez justes comme ça. Et ça, c'est un peu dans cette tradition-là, c'est-à-dire le regard pointu d'une vraie critique aussi qui pourrait être la critique d'un londonien ou d'un berlinois.
Exactement,
moi, en tout cas, personnellement, par rapport à Paris, disons, l'expérience que j'ai eue, c'est que finalement, effectivement, grâce à ce lancement de la scène de la Villette, bon, il y a eu beaucoup de répercussions. Et récemment, j'étais dans un lieu qui s'appelle le Quai de la Gare, qui est un endroit, donc, des anciens entrepôts frigo, où il y a 250 artistes, plasticiens, photographes, musiciens. Donc, il y a eu 3 jours de concert. Et en fait, ils ont appelé un Marseillais, quoi, pour présenter tout ça, en fait, votre serviteur. Et là, j'ai rencontré, c'est vrai, beaucoup de rebelles, des gens qui sont battus pour pouvoir rester là contre la mairie de Paris, etc., qui voulaient les déloger pour détruire. Et je me suis aperçu qu'il y avait vraiment un parallèle ouvert et complètement lumineux avec nos amis de Paris, qui sont pas obligatoirement ceux des grosses médias qu'on n'apprécie pas tellement, ou ceux qui écrasent sous le poids de leur information contrôlée, les provinciaux, comme ils disent. Donc, alors que nous, on préfère parler de nos régions plutôt, parce que les provinces, je crois qu'on a fait la révolution en France. Donc, c'est un terme qui n'est plus, qui ne devrait plus être usité. Voilà. Donc,
ça nous permet de rendre. À Paris, on se rend compte aussi que les problèmes qu'ont les Marseillais vis-à-vis de la capitale, c'est-à-dire ce problème d'être de seconde zone, d'être un peu soumis, c'est le même partout, pour tous les gens de toutes les régions. Donc, quand on nous dit, mais vous ne pensez pas être trop spécifique en parlant de vos problèmes de chez vous, non, nos problèmes, ils ont valeur universelle en France, en tout cas, quoi. C'est partout, à Toulouse, à Rennes, à Strasbourg, à Mulhouse ou à Bordeaux, c'est le même côté entre une capitale et une élite à la capitale qui essaye toujours de garder son pouvoir de décision quant à ce qu'il faut faire écouter à l'ensemble des Français, faire voir à l'ensemble des Français au cinéma, au théâtre, ainsi de suite, et entre le fait qu'en région même, des gens se provincialisent eux-mêmes. Complètement, en faisant cette espèce de complexe d'infériorité et en disant un singe Paris. Tous les centres-villes des petites villes se ressemblent, c'est-à-dire la rue pavée, piétonne, avec les mêmes machines en pierre, les mêmes chaînes, là, les mêmes trucs en bronze, et où ça devient un truc où la nuit, il n'y a plus personne parce qu'il n'y a plus que des boutiques, des musées, des machins, centre-ville mort. Non, et ça, façon, tout le monde imite ça.
C'est le système babylonien qui voilà. Est fait pour diviser les gens, parce que finalement, on parle toujours des villes, on ne parle jamais des campagnes, c'est-à-dire on ne parle jamais des jardins, on ne parle jamais des collines.
Mais il y a aussi, dans ce que tu disais tout à l'heure, un truc sur l'Ancien Régime. Paris, ce qui est provoquant à Paris, c'est les châteaux, quoi. Pourquoi est-ce qu'on construit un opéra pareil? Pourquoi est-ce que la Cité de la Musique, le Conservatoire, ça a coûté 600 millions à l'État? Et vous avez, à l'intérieur de la culture, vous avez aussi des infériorités qui sont créées. Moi, je veux créer un lieu national sur les variétés et la musique populaire. On me donne même, en 10 ans, j'ai réussi à obtenir 9 briques pour aménager un lieu, c'est-à-dire le destroyer, l'aménager un peu, que c'est rien. Le moindre théâtre, il est construit avec 40 millions. Nous, on a juste le droit à ça. Et à côté de nous, il y a un château qui a coûté 600 millions. Il y a un opéra, la place de la Bastille. Je préfère même pas imaginer ce qu'il a coûté. Et toute la question, c'est pourquoi est-ce qu'à Paris, il y a des châteaux? Et pourquoi on considère que dans toutes les autres régions de France, il n'y a pas des lieux qu'on peut créer et que les choses peuvent émerger de là? Et c'est en train de bouger énormément. Moi, par exemple, le titre national que je veux avoir, je veux qu'il soit, que ça veut dire territorial, le titre national. C'est-à-dire que nous, quand on va ouvrir, tout ce qu'on pourra faire entendre, des milliers de chansons, parce qu'on travaille surtout avec l'informatique et le multimédia, eh bien, de toutes les régions de France, à partir d'un lieu, et ensuite de 3, de 10, de 30, on pourra avoir accédé à tout ce qu'on a. Et nous, c'est notre principe. Et pour nous, être national, c'est pas simplement une ligne budgétaire, parce qu'on peut toujours s'aligner, on n'aura jamais autant que même un centre dramatique national. Pourquoi aussi le primat du théâtre, le primat de la parole, le primat de l'intellectualisme sur la parole du corps, sur la parole de la danse? Pourquoi ça aussi? Si vous voulez, tout ça, c'est vraiment des choses d'ancien régime. Moi, quand je vois ça, j'ai l'impression que François Mitterrand, c'était Louis XIV, même s'il avait des bons côtés, des choses comme ça. Je pense que maintenant, il faut vraiment se dire, est-ce qu'on est dans une république ou pas, quoi? Ça suffit.
Avant qu'on écoute Gatchampek, je voudrais savoir, en tant que spectateur, le spectacle il dure 3 heures, il y a une trentaine d'artistes, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la scène pendant le spectacle? Est-ce que c'est pas, il n'y a pas un spectacle parallèle?
Les
pas
pastis,
c'est pas pareil pour tout le monde. Hein. Eux, ils boivent, par exemple, ils jouent du piano, ils font des claquettes, ils s'amusent. Moi, je vois rien passer parce que je fais entre les présentations de la première partie, je suis toujours en train de courir après le timing. Il faut être en place, ceci, puis après, il faut jouer à la fin. Donc, moi, 3 heures, c'est comme si ça durait une demi-heure, en fait. Mais pour eux, j'entends des fois des rumeurs derrière qui sont...
Tellement content de se retrouver, quoi, que c'est vrai.
Gatchampek, à eux, pendant 3 jours, même 5 jours, parce qu'il y avait des répétitions avant, ils chantaient. Du matin au soir, eux, ils chantent toujours. Même quand ils quittent la scène, ils sont derrière, ils prennent le piano et vas-y, ils chantent.
Et on chante après aussi.
C'est vrai, le dernier soir, c'était très très bien. Wow, il y a eu des numéros, des très bons numéros. Si tu veux, l'histoire, c'est que dans un truc comme ça, après, bon, vous jugerez le spectacle, hein, mais nous, on en parle de l'intérieur. Enfin, moi, chacun, en plus, c'est pas une expérience de Gatchampek, de Joe Corbeau, de Massilia, c'est des individus. Hein, si je veux dire, encore une fois, on n'est pas des siamois. Hein, chacun, il a son autonomie à l'intérieur du truc. Et donc sa perception personnelle et son activité personnelle à l'intérieur. C'est ça qui est bien dans une ambiance musicale théâtre où t'as la couturière qui te rajoute un petit truc, machin qui te rajuste, machin qui te conseille ça, qui te donne un petit truc pour la voix. C'est toute une espèce d'activité derrière qui est marrante, qui rappelle un peu le cirque aussi. Mmh. Et c'est ça qui nous manque dans les concerts rock, par exemple, où c'est très cadré. Get in, get out, tu vois, en anglais en plus. Genre, tu rentres à telle heure pour ta balance, tu en sors à telle heure, tu rentres à telle heure pour ton resto, tu en sors à telle heure, et ainsi de suite, comme ça, pendant 3 mois, tu rentres dans ton bus à telle heure, tu rentres... Là, c'est plus dans une démarche naturelle, tu traverses le parc de la Villette, ou le Vieux-Port, ou n'importe où tu vas jouer, tu as le resto que tu vas voir, tu as le machin où tu rencontres, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment sympa. Et à la sortie, il t'en sort des choses. Je pense que certains d'entre nous vont écrire des chansons dont les idées sont venues dans ce magma, dans cette période-là. Des trucs qu'on a entendus, des choses qu'on a entendues chez les autres. Cheb Aïssa, moi, m'inspire. Joe Corbeau depuis toujours. Gatchampek, moi, d'avoir fait personnellement, là, je parle pour moi, d'avoir fait ces petites intros, je crois que j'en ai retiré déjà une chanson finie. C'est-à-dire qu'à partant de 8 vers pour présenter quelqu'un, ça m'a permis ensuite de développer le thème et d'en faire une chanson, une vraie chanson. Et je crois que je vais en faire une deuxième avec un deuxième thème. Donc, j'ai pas travaillé pour rien.
Ouais. Et ça, c'est un truc que je trouve très fort. Tu sais, il y a une période, en ce moment, il y a beaucoup depuis, je sais pas, les années 50, les gens, ils sont surtout des auteurs et des compositeurs. Et en fait, le fait de se mélanger avant, les gens, ils interprétaient les chansons des autres. Mais le fait que des gens se mélangent, s'inspirent les uns les autres, c'est une chose très forte. C'est là qu'on voit que c'est une culture et que c'est pas simplement le désir de réussir dans son coin, avoir son petit créneau et on va jusqu'au bout. Ce qui fait que c'est une culture, c'est qu'on puise vers des mêmes inspirations tous. Puis il y a l'idée de la troupe, la vie de troupe. Et comme au cirque, comme il disait Djali, exactement, comme au cirque, t'as les garçons de piste. C'est génial de voir les garçons de piste courir. Là, t'as les techniciens qui courent, tu as tout ça et tout ça, on le montre. C'est-à-dire, d'habitude, ce qui est caché dans les coulisses, nous, on lève le rideau et on voit la fille qui se met du rouge à lèvres, on voit le mec qui regarde si on voit son tatouage et tout, et il va monter en scène. Et nous, ce qu'on voudrait faire avec Philippe, parce que là, il va y avoir peut-être 30 000 personnes qui vont venir, ce qui fait que les gens, ils vont bien entendre. Ils vont sûrement bien entendre parce que ça va être bien fort, mais qu'est-ce qu'ils vont voir de loin? Et ce qu'ils vont voir aussi, c'est un grand écran sur lequel on va pas demander. Et Philippe, c'est un mec vraiment doué, il écrit des romans, il fait des dessins, c'est un sacré personnage, oui. Et ce Philippe Carrez, c'est pas un type qui va mettre une loupe pour qu'on voit en gros plan les points noirs s'il en a ce jour-là de Juan Carmona en train de jouer. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va montrer en même temps qu'on l'entend chez Baïssa, quelqu'un qui boit du thé. il va voir, on va voir Edmond Francky en train d'essayer de faire son enchoyade. Donc, si vous voulez, l'important pour nous, c'est que dans un lieu démesuré, très grand, on essaye au contraire de montrer des choses intimes et de montrer la chose que les gens adorent, c'est les coulisses. Nous, on n'est pas des vedettes, c'est pas ça qu'on cherche. On est des humains qui chantent. Voilà, c'est ça, tout.
C'est dans une tradition marseillaise aussi, je veux dire, à l'Alcazar, il y avait beaucoup de choses qui étaient à vue aussi. Hein. Il y avait pas mal de trucs qui se passaient dans la fosse et ainsi de suite. Et même plus récemment, si vous êtes allé voir une troupe de théâtre que moi j'adore, qui s'appelle Cartoon Sardine, si vous allez voir La Puce à l'oreille de Fedot, c'est exactement comme ça, où tu as une petite scène principale où se passe l'action, et puis tout autour, tu as, soi-disant, leur truc de maquillage, et tout est à vue, comme ça, tous les changements et tout. Et ça rajoute encore au spectacle, et franchement, c'est marrant, quoi.
Puis il y a une théâtralité dans tout ça. Moi, c'est sûr, moi, je viens plutôt du théâtre, mais moi, maintenant, je ne suis que là-dedans depuis je ne sais pas combien d'années, la musique, mais... Ce qui me frappe beaucoup quand je vous ai vu, parce que moi j'étais une espèce de spectateur aussi, j'étais là, j'envoyais les tops, je donnais le nom des tableaux, ça aussi c'est un mot de revue, et j'étais comme un spectateur. Cette fois-ci je crois que je suis sur la scène, mais parce que dans la salle il y aura tellement de monde, c'est que c'est pas une salle. Et si tu veux ça d'avoir vu, vous avoir vu chacun, j'ai vu du théâtre. Hein. Quand j'ai vu Gatchenpec, j'ai vu de la tragédie. Vraiment, j'ai vu des trucs que, si tu veux, je me suis dit, mais ça, eux, ils vous racontent la tragédie grecque. Quand je vous ai vu faire à Hollywood le deuxième jour, vous étiez mais incroyable. C'était la Commedia dell'arte. Je voyais Tatou, on aurait dit Pantalon. C'est le personnage
qu'on
en a rajouté, dans la Commedia
dell'arte. Rajouté,
non, c'était très dessiné. Là, au contraire, dans
tu es un visionnaire.
C'est l'inverse. Au contraire, d'en rajouter, je trouve que c'était vachement élagué et qu'il n'y avait que le trait. Et qu'au contraire, tu sais, les gens croient toujours que les gens du Sud sont des gens qui en rajoutent. Et mais non, il y avait une discipline folle. Et la Commedia dell'arte, c'était ça. Parce que tout ce théâtre de la Méditerranée, c'est ça, c'est les masques. Et tout d'un coup, un masque, c'est un type. Et je trouve que Tatou, il avait le côté éternel de tous ces personnages bizarres. Il s'était mis une sorte de tissu sur la tête. Mais c'était vraiment ça. Mais c'était vraiment incroyable hein, de voir ça. Tu avais l'espèce de jeune premier chez vous. Tu vois qui est là ? Ah bah oui ! C'est Gary, le jeune premier, qui se met son espèce de bob, comme on les appelait quand j'allais à la plage quand j'étais petit. Il met son bob de côté, sa tête rasée et un truc incroyable. Le mec qui oublie qu'il est beau, quoi. Et c'est le jeune premier qui veut pas frimer. Et il se passe un truc incroyable. Tu vois des trucs de la Commedia dell'arte. Bon, c'est parce que moi j'ai mes yeux de théâtre que je vois ça, mais il y a vachement de théâtralité. Et c'est vrai que cette soirée, elle fait penser à des trucs comme ça. Tu sens qu'il y a des couleurs différentes. La théâtralité du flamenco, c'est encore autre chose. C'est carrément. Alors là, t'as l'impression que ça fait des siècles, que c'est un truc qui est ancestral, que tu vois. Le danseur qui était là, c'était incroyable. La Villette, celui qui sera là aussi, je pense, ça va être étonnant. Et tu sens qu'il y a un truc primitif qui se passe aussi à un moment. Et que pourtant, on parle pas la même langue, etc. Mais qu'il y a drôlement des points communs. C'est vrai que les cultures de la Méditerranée, elles se ressemblent. Et je pense que ce qui est fort aujourd'hui, c'est pas tellement que c'est une période. Moi, je me rappelle quand j'étais gauchiste, on disait toujours vive la différence. Mais la différence, mais même un salaud comme Le Pen, il dit, mais bien sûr, lui aussi il dit vive la différence. Il dit, mais on se ressemble absolument pas. Dire qu'on ressemble à quelqu'un, ça, c'est encore plus fort.
Mais par le fond.
C'est tout.
Moi, pour résumer un petit peu, je veux dire que bon, ce qui s'est établi, quand même, moi, ce que je retiens, c'est un maître mot, la connivence, tout simplement, la complicité qui se crée comme ça. Les premiers jours, c'était pas évident. Hein, tout le monde arrive avec son truc, préparé, bon, essaye de le faire le mieux possible pendant les filages. Puis au cours des représentations, bon, on va voir ce coup-là, c'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Mais il y a une connivence qui s'installe, c'est ça qui donne le lien au spectacle. Quand je disais, on le jouerait 30 jours, tous les jours, on en rajouterait quelque chose, on enlèverait un truc. Ça, c'est de après, c'est de l'affinage, c'est sympa.
Surtout quand on le joue à Marseille, quand même, c'est important, hein, parce qu'on va être dans la vibration marseillaise, parce que tout ce que tu disais sur les racines profondes, par exemple, du flamenco qui viennent de l'Inde ancienne. Ouais. Donc en fait, toutes les cultures sont passées, même si on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une culture hindoue, disons, dans la région. On sait quand même que le nom de la sainte noire, Sarah, qui est la sainte qui est arrivée au Sainte-Marie en Camargue, donc c'est Kali. Donc Kali, c'est quand même la noire. Et c'est, on sait aussi que les gitans sont d'origine indienne. Donc il y a aussi une relation profonde avec la mémoire, quoi, qui est présente. Je dirais presque c'est plus que culture. Moi, j'ai envie de parler de vibration.
De si si blanche non so scia più li demando, ma mai recaves vu, e ne plori de paure che ne mueron de fan. Flores pa' pluma, maire, le leche le dará. En poda moi no riche, o nun de Jesucrim. Lo buen die vous assiste, de payune en agis. Dunes mi le brigueto que vos tu embondavam. Le brigueto que tu embones son per mi chimbla. De din la quintenaro, en el men a morir. Tan fete para poco, da señor Jesucrim. San Gianni a San Pere.
D'écouter un extrait du premier album des Gacha Ampeg, Polyphonie Marseillaise, sorti chez l'empreinte digitale, distribué par Amundia Mundi, donc ça reste bien dans le sud, hein, c'est le mot qu'on puisse dire.
Occitan à 100%.
L'accueil pour l'instant du disque, il a été. Vous avez eu des papiers à droite à gauche, vous y attendez à cet accueil?
Non.
ouais, je sais pas, non, l'accueil. Ah, l'accueil a été chaleureux, quoi.
Ouais, en général.
L'accueil a été chaleureux.
Il est bon, le disque. C'est mérité. Gacha Ampeg, c'est des gens, comme ils disent. C'est des sacrifiés.
C'est des sacrifiés.
Alors, tout ce qui leur arrive, de toute façon, c'est bien. Quoi.
C'est, voilà. C'est Doumé du Bar de la Plaine qui dit ça, d'ailleurs, non?
Non, ça, c'est le cuistot de Au Courju. Tu vois?
Il est bon. Quelqu'un qui connaît et qui fait bien la cuisine. Mmh.
Voilà. Les interstices ont été.
Non, il y a aussi Doumé du Bar de la Plaine aussi qui intervient. Des gens plutôt de ce coin-là.
Ouais, voilà. C'est Lux B qui a fait le collectage.
Il y a des gens qu'on a rencontrés au Tipeee là. Tortue Ninja, j'allais dire.
Tati Ninja. Il y a Tati Ninja, il y a Jib aussi, je crois. Il dit qu'on est des fifres les MOMA. Ah. Voilà, il y a des trucs.
Mais il y a des gens qui les connaissent bien.
Des gens du quartier, parce que nous, on est souvent au Tipeee. Bon, je parlais des histoires d'atelier aussi. Puis bon, le bureau de Micmac, il est au Tipeee aussi. Donc, et puis on est souvent à la plaine, quoi. Donc, du coup, Lux B, il a fait le collectage dans le quartier où on est, quoi.
Voilà. Tout à l'heure, on discutait avec Pape Jali et Joe du fait que Marseille, c'était pas aussi facile que ça. Vous teniez un autre discours parce
que c'est vrai que moi, je suis assez impressionné par tout ce qui nous arrive. Gacha Ampeg, on existe depuis 2 ans. En 2 ans, il s'est passé des choses de folie. Quoi. On est monté 2 fois à Paris avec les Fabulous Troubadours, avec Marseille sur scène. On a fait des émissions de télé, de radio, on a fait ce disque. Tout ça est arrivé en 2 ans. Quoi. Et je trouve que moi, j'ai vécu les années Kanja Rock où pendant 5 ans, il ne s'était rien passé. Tu vois. Ou alors ouais, des concerts.
Mais ça marche bien pour eux maintenant.
Et maintenant, ouais, ça commence à bombarder. Quoi. Alors peut-être que c'est vrai que ça vient des nouvelles attraits des cultures marseillaises.
Non, mais c'est parce qu'ils sont trop humbles. C'est pas parce que le groupe n'existe que depuis 2 ans que tout n'est pensé que depuis 2 ans. C'est des gens c'est qui travaillent depuis longtemps,
ouais.
Et qui essaient de tirer vers la qualité. Donc ils auraient fait il y a 6 mois le groupe, aujourd'hui eh ben, ça marcherait peut-être aussi bien aussi, ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est pas comme nous qui à l'époque avons commencé, on ne savait même pas ce que c'était un micro, on savait rien du tout. On a mis 3 ans avant de savoir à peu près tchatcher dans une sono, quoi. Parce qu'il y avait tout à inventer, il y avait tout à dans ce style-là. Comme Gachampeg, c'est des gens qui ont des parcours individuels déjà depuis longtemps.
Moi, je sais que quand même, il y a aussi le fait que si on avait fait ça il y a 15 ans, peut-être ça n'aurait pas marché pareil. Peut-être qu'on n'aurait été pas pris...
Il y a 15 ans, il y avait quand même les Moonjoy, quoi.
Ouais,
mais c'est une autre énergie, pas eu, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient intéressés bon, par la cause occitane, bien sûr, qui écoutaient Moonjoy.
Et en 80, il y a eu une chute, ou même Jean-Marie Carlotti te le dit, quoi, ça a été vraiment très dur. 80-90, une période dure pour les cultures locales, quoi.
Parce que c'était connoté effectivement par un militantisme, comme dit Joe, par un mouvement de gens qui étaient très bien intentionnés, avaient de très très bonnes raisons. D'ailleurs, on les remercie d'avoir été là parce qu'ils nous ont aussi forgé des concepts et des choses qu'on a pu soit critiquer, soit confirmer. Mais en tout cas, qui a permis à nous maintenant de voir avec du recul qu'est-ce que c'est que la culture occitane aujourd'hui. Avec peut-être 30 ans, ou dans notre région en Provence en tout cas, rien n'a été pensé. D'accord. Et les Moonjoy ont été des gens qui ont su aussi intéresser certaines jeunesses dans les années 70, mais avec toujours le côté militant de l'histoire. Alors qu'aujourd'hui, l'ambition des gens, des musiciens qui se veulent d'expression occitane, c'est d'abord de faire danser les gens et tout le monde. Mmh. Et qu'aujourd'hui, on est une bande de gens qu'on dit sur la ligne, imaginons, avec Fabulous Troubadour, avec donc Claude Sicre, Félix Castan, avec Bernard Lubin ainsi de, et Nix Vomica. On est des gens qui, disons, la proposition de la culture occitane, c'est de s'adresser à tout le monde. Elle doit être universelle et pas uniquement ethnocentrique dans sa proposition. Voilà, le grand message, c'est que la parole, la pensée occitane à travers les siècles, le millénaire même qui vient de s'écouler, si on regarde les auteurs, depuis les Troubadours jusqu'à Max Rouquette aujourd'hui ou Félix Castan, c'est toujours un grand message d'humanisme, un grand message d'ouverture et où la nation, état, handicapante, centraliste n'existe pas. Je veux dire, où c'est le choix d'être d'une culture qui est important et pas d'être né à un endroit en particulier. C'est le choix d'appartenir à cet endroit à un moment donné et d'y faire des choses pour s'y sentir bien soi-même et avec les autres. C'est ça la proposition aujourd'hui de cette ligne de pensée dans la culture occitane qui est représentée par la ligne Imaginot dans laquelle sont venus s'inscrire Gachampeg. Voilà.